France Culture.
Il est 18h sur Culture, le journal. Julie Paco, bonsoir.
Bonsoir Julie. Frédéric, bonsoir à tous. Une vingtaine de pays européens et arabes réunis à Madrid aujourd'hui pour tenter de trouver une issue au conflit à Gaza et envisager des sanctions contre Israël. C'est ce que souhaite en tout cas le ministre espagnol des Affaires étrangères. Emmanuel Macron entame ce soir une visite d'État de 2 jours au Vietnam avant de s'envoler vers l'Indonésie puis Singapour. Une tournée marathon au fort accent économique pour le chef de l'État qui espère signer plusieurs contrats et accords commerciaux. Des signalements de fugue en baisse, mais des disparitions inquiétantes de mineurs plus nombreuses. C'est ce que révèle la Fondation Droits d'Enfance dans son rapport annuel, qui alerte sur la multiplication des cas d'exploitation sexuelle concernant les jeunes filles. Intensifier la pression sur Israël et trouver une issue au conflit dans la bande de Gaza. C'est l'ambitieux objectif d'une réunion à Madrid aujourd'hui. Une vingtaine de pays sont représentés, des pays européens et arabes, ainsi que plusieurs organisations internationales, qui se retrouvent donc pour la 5e réunion de ce groupe à Madrid, au cours de laquelle le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, compte faire passer un message. À court terme, la communauté internationale doit envisager des sanctions contre Israël pour mettre fin au conflit, dont la seule solution politique est une solution à 2 États.
Si aujourd'hui on croit vraiment à la solution des 2 États, qui est à 2 doigts de ne plus être possible sur le terrain, la meilleure façon de la protéger, c'est de reconnaître l'État palestinien. J'invite tous les pays au monde à nous rejoindre. On est une majorité des États au monde, presque 150 États au monde reconnaissant la Palestine. C'est une minorité qui ne l'ont pas fait. Alors, sans donner des leçons à personne, il faut reconnaître l'État palestinien. Et c'est le moment que la voix de l'Europe, parce que notre dignité, la dignité des Européens est aussi en jeu à Gaza. Il ne peut pas avoir des poids, des mesures. On doit dire la même chose pour les mêmes principes à Gaza et en Ukraine. Nous devons faire une révision de l'accord Israël-Union européenne, comme on a décidé la semaine dernière. On doit suspendre cet accord et on doit envisager des sanctions. Il faut tout faire, tout envisager pour arrêter cette guerre. On est vraiment dans l'inhumain. On ne peut plus continuer comme ça. L'Europe, aujourd'hui, il a une responsabilité pour hausser sa voix, pour faire tout ce qui est à portée de notre main. Le monde entier sait que l'Europe est le dernier bastion pour la paix et pour la défense des droits internationaux et du droit international humanitaire.
José Manuel Álvarez, ministre espagnol des Affaires étrangères, invité de France Info. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a poursuivi ses frappes tout le week-end. Elles ont fait au moins 22 morts, dont des enfants et une femme enceinte la nuit dernière, d'après la défense civile de Gaza. Vendredi dernier, 9 enfants d'une même famille ont été tués dans le bombardement de leur domicile à Ran Younes. L'élection présidentielle s'est tenue l'année dernière au Venezuela. Scrutin remporté par Nicolas Maduro, mais aux résultats toujours contestés. Voilà pourquoi les élections législatives qui se déroulent aujourd'hui ne suscitent que très peu d'intérêt au sein de la population. L'abstention pourrait atteindre 70 à 80% d'après les sondages. L'opposition majoritaire qui revendique toujours la victoire de la présidentielle a en effet appelé au boycott du vote aujourd'hui. C'est un reportage d'Alice Campagnol à Caracas.
Ellos quieren verte vencido.
Ils veulent te voir vaincu. Mais non, le 28 juillet, nous avons voté. Le 25 mai, c'est non.
Pourquoi retourner aux urnes si les dés sont pipés? Voilà ce que dit en somme la chef de file de l'opposition, Maria Corina Machado. Mais au sein même de son camp, les avis divergent. Derrière Enrique Capriles, qui a un jour affronté Hugo Chavez dans les urnes, ils sont quelques-uns à se lancer dans la course. C'est le cas de Juan Requesens, ancien prisonnier politique.
C'est un discours que l'on a trop entendu. Moi-même, j'ai défendu l'abstention pendant longtemps et je le regrette aujourd'hui parce que l'on en arrive toujours au même point.
Accusé par les partisans du boycott électoral de négocier avec la dictature, pour le politiste Benigno Alarcón, ses opposants sont des idiots utiles.
Je crois qu'ils ont été autorisés à participer pour donner à cette élection un vernis démocratique, pour que ce scrutin ne soit pas trop remis en cause. Je pense qu'il était très important pour le gouvernement qu'il y ait des candidats de premier ordre. Donc évidemment, un Capriles, un Requesens deviennent des acteurs très visibles dans cette élection, des candidats qui donnent l'impression qu'ici, il y a une vraie bataille électorale, alors qu'en réalité, c'est une élection avec plusieurs partis, mais non compétitive.
Avec une dirigeante qui vit cachée des militants emprisonnés, Edmundo González, qui revendique la présidence Exilé en Espagne et désormais avec des divisions visibles en son sein, l'opposition vénézuélienne se fragilise encore un peu plus face à la toute-puissante machine chaviste au pouvoir.
Alice Campagnol, correspondante de France Culture à Caracas. Emmanuel Macron atterrit ce soir à Hanoï, au Vietnam, où il démarre une tournée de 6 jours en Asie du Sud-Est, qui le mènera ensuite en Indonésie, à Singapour, au cours de laquelle le chef de l'État espère réaffirmer le rôle de la France comme partenaire fiable dans un contexte de tension entre Chine et États-Unis, un partenaire fiable aussi bien en matière de coopération militaire que commerciale. Emmanuel Macron, Paul Barcelone, cherche bien à étendre l'influence de la France dans la région.
Du mausolée d'Ho Chi Minh, le fondateur du parti communiste vietnamien, figure de la décolonisation, jusqu'au temple de la littérature, Emmanuel Macron va sacrifier à toutes les traditions. Parade militaire au palais présidentiel demain, puis passage obligé au siège du très puissant PC. Photo avec Tô Lâm, le secrétaire général du parti, qui est le vrai homme fort du pays. Objectif, retisser des liens diplomatiques et économiques. 9 ans après la dernière visite d'un président français ici, depuis, le Vietnam s'est imposé comme l'une des puissances émergentes de la région. Son PIB a bondi, plus 7% l'an dernier, mais se retrouve coincé par la guerre commerciale. D'un côté, les droits de douane de Donald Trump, de l'autre, l'appétit sans limite de la Chine. Emmanuel Macron propose une troisième voie, l'Europe, la France, partenaire fiable et respectueux de l'histoire et de la souveraineté, se justifie l'Elysée. À la clé, opération séduction et signature de plusieurs accords commerciaux. Dans la délégation présidentielle, 7 ministres et 30 de chefs d'entreprise.
Paul Barcelone au Vietnam avec les moyens techniques de Raymond Albouy. 38 477, c'est le nombre de disparitions de mineurs signalées aux forces de police et de gendarmerie l'année dernière. Cela représente 105 enfants par jour en moyenne et c'est 6% de moins qu'en 2023. Bilan dévoilé par la Fondation Droits d'Enfance à l'occasion de la Journée internationale des enfants disparus. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
Alors dans la très grande majorité des cas, 95%, il s'agit bien de fugues, des fugues dont le nombre diminue sensiblement quand les disparitions inquiétantes, elles, continuent de grimper, Diane.
Oui, 1737 cas recensés en 2024, une augmentation de 9% sur un an. Alors, il ne s'agit pas forcément d'enlèvements criminels, le rapport le précise, c'est un cas rarissime. Julien Landerneau de la Fondation Droits d'Enfance nous explique les situations que l'on retrouve en général dans cette catégorie dite des disparitions inquiétantes.
Un nombre conséquent de disparitions inquiétantes sont d'abord signalées comme des fugues. Et lorsque l'absence de l'enfant dure plusieurs semaines, à ce moment-là, la fugue peut être qualifiée en disparition inquiétante. Dans d'autres cas, ça peut être signalé directement comme une disparition inquiétante. Lorsqu'il s'agit d'un enfant particulièrement jeune, en dessous de 13 ans, un enfant qui a pu exprimer des pensées suicidaires, ou bien un enfant qui a fugué avec une autre personne dangereuse pour elle-même.
Ces disparitions inquiétantes sont donc plus nombreuses. Le rapport souligne aussi que les fugues deviennent plus longues. Elles concernent des mineurs plus jeunes. Toutes catégories de disparitions confondues, la Fondation alerte donc sur la complexité des cas.
Si on regarde les dossiers de fugue qui sont ouverts par le 116 000 enfants disparus, dans un dossier sur trois concernant des jeunes filles, il y a une situation d'exploitation sexuelle suspectée ou avérée. Elle peut être la cause de la fugue ou elle peut aussi intervenir durant celle-ci pour des besoins de survie. Et effectivement, c'est malheureusement un phénomène qui a tendance à s'accentuer d'année en année.
Sa fondation interpelle donc les autorités et les parents. Une fugue ne doit jamais être prise à la légère et un numéro d'urgence est disponible, le 116 000, pour soutenir les familles.
Les explications de Diane Berger pour France Culture. Le ministère de la Santé demande aux ARS, les agences régionales de santé, de mener des inspections inopinées dans toutes les usines de conditionnement d'eau minérale naturelle et de source d'ici à 2026. Une circulaire qui vise, sans la citer, la marque Perrier à la suite de la publication du rapport parlementaire sur la fraude aux eaux minérales mise en œuvre par le groupe Nestlé. Après Cannes, la ville de Nice à son tour touchée par une coupure d'électricité la nuit dernière, touchant 45 000 foyers. Là encore, il s'agit d'un acte de sabotage. Un incendie volontaire sur un transformateur électrique. Hier, c'est un poste de haute tension qui a été incendiée dans le Var et un pylône scié dans les Alpes-Maritimes, privant pendant plusieurs heures 160 000 foyers d'électricité. La météo demain matin avec les nuages qui se dissipent sur le nord, même si quelques pluies persisteront sur les Vosges, la Franche-Comté et les Alpes du Nord. Le soleil dominera sur le sud-est et sur la Corse. Le mercure affiche 6 à 10 degrés au réveil sur le tiers nord du pays, 10 à 14 degrés en moyenne partout ailleurs et jusqu'à 17 près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal, préparé ce soir avec Martin Descloseaux.